VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous sommes le vendredi 9 février 2018, en direct de Washington. Le Monde aujourd'hui, une demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité sur VOA Afrique. Jacques Aristide pour vous accompagner. Les titres ce soir, l'armée congolaise affirme avoir asséné des coups sérieux aux rebelles à Yakutumba dans le sud Kivu. L'ONU et l'UE saluent la tenue prochaine d'un dialogue pour sortir de la crise au Togo. L'Égypte entame une opération antiterroriste de grande ampleur jusqu'aux confins de la Libye. Mort et dévastation en Syrie au cinquième jour de raid du régime de Bachar al-Assad sur un fief rebelle. Dans la partie magazine, des start-up africaines au Salon mondial de l'innovation à Las Vegas.
L'avantage que nous avons avec la SolarBox, c'est que son autonomie est modulable. Nous nous adaptons aux besoins de la localité.
Également à venir dans la rubrique économique en Côte d'Ivoire, accord sur la mine d'or d'Agbaou et en sport, quid de l'Afrique aux Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang. En République démocratique du Congo, l'armée régulière affirme avoir capturé 120 rebelles à Yakutumba lors d'une offensive menée depuis 10 jours dans la province du Sud Kivu. Elle dit également avoir repris le contrôle de leur bastion. Les rebelles Yakutumba, du nom de l'ex-général William Amoury Yakutumba, déserteur opposé au président Joseph Kabila, demeure l'un des principaux groupes armés actifs dans l'est du pays. Ils avaient attaqué la ville d'Uvira fin septembre en bombardant leur cible depuis le lac Tanganyika au cours d'une opération navale avec des embarcations motorisées avant d'être repoussés par la MONUSCO, la force onusienne. Ces derniers jours, certains ont fui l'offensive de l'armée congolaise en se réfugiant sur l'autre rive au Burundi, lequel a remis 34 miliciens à la RDC il y a une semaine. RD Congo toujours, l'Église catholique a souhaité la poursuite de la mobilisation contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila lors d'une messe aujourd'hui à Kinshasa à la mémoire des victimes de la marche du 21 janvier. Au Cameroun, l'armée rejette les accusations d'exactions lors d'opérations contre les séparatistes anglophones au moment où l'Union européenne recommande un usage proportionné de la force. Le compte-rendu de Nathalie Barge.
Nous sommes victimes de la désinformation et des fake news, a déclaré le colonel Didier Badjak, porte-parole de l'armée, précisant qu'hier, un militaire a été tué à Bamenda. Sa mort porte à 23 le nombre d'éléments des forces de sécurité tués par des séparatistes présumés. Le colonel a invité les partenaires du Cameroun à avoir un regard impartial, affirmant que l'armée camerounaise est professionnelle, qu'elle respecte les droits humains et que les rafles leur permettent de trouver des armes. Selon différentes sources, au moins 4 civils ont été tués début février par les forces de sécurité dans le nord-ouest anglophone après la mort de 2 gendarmes. Des témoins ont aussi fait état de maisons détruites et de biens brûlés. En réaction au fort déploiement de troupes dans les régions anglophones, la cause indépendantiste a pris du poids et la crise s'est muée en conflit armé de basse intensité avec des attaques isolées contre les symboles de l'État camerounais.
Je vous le disais en titre, l'ONU, l'Union européenne et les ambassades d'Allemagne, de France et des États-Unis au Togo ont salué aujourd'hui la tenue d'un dialogue le 15 février prochain au Togo. Le pays est fortement secoué par une crise depuis plus de 5 mois. Le dialogue, qui a trait aux réformes institutionnelles et constitutionnelles, a été rendu possible par l'implication du Ghana et de la Guinée. Le président togolais, Faure Gnassingbé, actuellement à la tête de la CEDEAO, fait face à une forte contestation populaire. Quasiment chaque semaine, des marches pour demander sa démission et la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels rassemblent des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Les autorités égyptiennes ont lancé ce vendredi une opération inédite par son ampleur à l'échelle du pays contre ce qu'elle appelle les terroristes et les organisations criminelles. Un porte-parole de l'armée a déclaré que l'opération s'étendait au Sinaï, au delta du Nil et à la zone désertique de l'ouest du pays, aux confins de la Libye et porterait notamment sur le renforcement des contrôles au point de passage avec les pays voisins. L'opération menée conjointement par la police et les forces armées comprend des bombardements aériens alors que la marine égyptienne a renforcé ses positions en mer pour couper les routes d'approvisionnement. L'objectif est d'éradiquer le terrorisme dans le Nord Sinaï d'ici la fin du mois de février. Justement, pour revenir à la Libye, un double attentat à la bombe a fait 2 morts et 55 blessés ce vendredi, jour de grande prière dans une mosquée de Benghazi. Les 2 bombes avaient été placées dans des sacs à la porte de cette petite mosquée. D'après une source militaire, les explosions ont probablement été déclenchées à distance avec un téléphone portable. Il y a 2 semaines, un double attentat à la voiture piégée a fait 35 morts et une 60aine de blessés près d'une mosquée du quartier d'Al-Salmani à Benghazi, deuxième ville libyenne contrôlée par l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar. En Ouganda, les locaux d'une importante ONG à Kampala ont été saccagés par des inconnus aux petites heures du matin, sans toutefois rien voler. Ils ont pénétré par effraction dans le bâtiment abritant Human Rights Awareness and Promotion Forum, ont attaqué 2 gardiens avec des barres de fer et ont coupé l'électricité et désactivé le système de sécurité, d'après le directeur de cette ONG ougandaise qui avait déjà été attaquée en mai 2016. La police affirme qu'une enquête a été ouverte. L'ONG a notamment contribué à faire annuler en 2014 par la Cour constitutionnelle une loi réprimant la promotion de l'homosexualité. En Ouganda, l'homosexualité est un crime. L'Afrique du Sud était suspendue ce vendredi à l'issue de tractations sommées pour obtenir le départ anticipé du président Jacob Zuma, exigé par la direction de son parti, l'ANC, qui a annulé ses engagements publics pour accélérer la fin de la crise. Pour enrayer la chute de popularité du parti, son tout nouveau chef, Cyril Ramaphosa, tente d'obtenir au plus vite le départ de l'encombrant chef de l'État.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le cahier international en Syrie, les raids du régime du président Bachar al-Assad ont repris de plus belle aujourd'hui sur l'enclave rebelle de la Ghouta orientale, au 5e jour d'une campagne aérienne qui a fait plus de 220 morts. Salwa Jaafari.
Encore une fois, des images choquantes, des corps d'enfants gisant sur le sol de cet hôpital de Erbil. Des cris de souffrance sans fin. Dehors, les secouristes s'affairent, débordés. On a du mal à voir tellement le nuage de poussière est épais. Les bombardements ont visé plusieurs localités de la vaste région de la Ghouta orientale, proche de Damas, et dans laquelle sont assiégés quelques 400 000 habitants, dont la situation est très préoccupante. Malgré ces violences dévastatrices, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU n'ont pas réussi jeudi à appuyer l'appel à une trêve humanitaire réclamée par les agences de l'ONU pour permettre la livraison d'aide d'urgence. Depuis lundi, 229 civils, dont 58 enfants, ont péri dans le déluge de feu déversé par le régime, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon Save the Children, plus de 4000 familles de la Ghouta orientale vivent désormais dans des caves et des bunkers. Les enfants sont affamés, bombardés et piégés. Le siège signifie qu'ils n'ont nulle part pour fuir, ajoute l'organisation.
Le Congrès américain a mis fin à un bref shutdown du gouvernement fédéral intervenu pour la seconde fois en 3 semaines. Les parlementaires ont approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi un accord budgétaire qui a ensuite été paraphé par le président Donald Trump, ce qui a permis de lever le gel du financement du gouvernement. Les organisateurs en avaient fait l'une de leurs promesses, les JO d'hiver 2018 de Pyeongchang seront ceux de la paix dans une Corée du Sud qui n'est pas en odeur de sainteté avec son voisin du Nord. La promesse a été tenue, le point de la cérémonie d'ouverture aujourd'hui avec Yacouba Ouédraogo.
Tout a commencé par cette image historique, une poignée de main entre Kim Yo-jong, la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, et Moon Jae-in, président de la Corée du Sud. Kim Yo-jong devient du coup la première membre de la dynastie régnante de Corée du Nord à fouler le sol sud-coréen depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Autre symbole fort de la cérémonie d'ouverture, le passage en commun des sportifs des deux pays dont les tenues indiquaient seulement le mot « Corée » dans le dos. Vous allez tous nous inspirer pour vivre en paix et en harmonie malgré nos différences, a souligné Thomas Bach, président du Comité Olympique International. Puis Moon Jae-in a lancé, je cite, « Je déclare les Jeux Olympiques de Pyeongchang ouverts. L'heure précédant l'ouverture a été moins conviviale, le vice-président américain Mike Pence ayant esquivé le dîner organisé en amont. Banni de ces Jeux d'hiver pour dopage institutionnalisé, la Russie peut néanmoins compter sur 168 de ses représentants qui ont défilé sous la bannière olympique. Plus de 2900 athlètes représentant 92 États ou délégations vont se disputer les 102 titres décernés dans 15 disciplines et ce jusqu'au 25 février.
Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale là ce soir. Et maintenant, tour d'horizon de l'actualité économique, nous retrouvons Eric Manirakiza.
Aux États-Unis, Amazon lance dans les prochaines semaines son propre service de livraison baptisé Shipping with Amazon, livré avec Amazon, SWA en sigle. Amazon entend concurrencer FedEx, UPS, DHL et Chronopost et proposer des tarifs beaucoup plus bas que les prix appliqués. Le cybermarchand veut ainsi réaliser des grosses économies en se passant des services des intermédiaires. En Côte d'Ivoire, la compagnie canadienne Endeavour, qui exploite la mine d'or d'Agbaou, a conclu un accord avec la population locale pour mettre fin à des manifestations qui bloquaient ses installations. La société a accepté de former et d'embaucher une centaine de jeunes locaux. Depuis 5 ans, elle a versé plus de 6 milliards de francs CFA de compensation à plus de 1100 agriculteurs et propriétaires fonciers et 1,5 milliard à un comité local de développement pour financer des infrastructures routières, d'éducation et de santé. Des indemnisations financières supplémentaires devraient aussi être versées. La RDC veut porter à 10% la taxe sur les métaux stratégiques dans son nouveau code minier. Le cobalt, qui est convoité par les fabricants de smartphones et de voitures électriques, est surtout concerné. Le boom mondial des nouvelles technologies a provoqué une flambée des prix du cobalt de plus de 127% en un an. Son prix est passé de 75 000 à 81 250 dollars la tonne à la Bourse des métaux de Londres. La RDC est le premier producteur mondial de cobalt.
Et l'heure maintenant d'un tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Nicolas Pineux. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Football pour commencer, tour préliminaire aller de la Coupe de la Confédération se joue ce week-end à travers l'Afrique.
Et oui, moins d'une semaine après la clôture du CHAN 2018, une nouvelle campagne de compétition interclub africaine qui débute ce week-end avec les tours préliminaires. C'est la Coupe de la Confédération qui donne le premier coup d'envoi ce vendredi entre le 11 créateur, le club malien, et le CR Belouizdad, le club algérien. A noter que le club du Djoliba est d'ores et déjà qualifié après le retrait du club libyen d'Eloi United. À suivre samedi, Énergie du Bénin contre Afia de Guinée, le Manga Sport du Gabon face au Maniema Union de la RDC, l'Olympic Star du Burundi face à l'Étoile Filante du Burkina Faso, et puis les New Stars du Cameroun contre Deportivo Niéfang, c'est un club de Guinée équatoriale, et puis l'Estanda, le club ivoirien, contre le CS La Mancha, club congolais. Dimanche, l'APR du Rwanda contre Anse Réunion, un club des Seychelles, et puis Asante Kotoko, le club ghanéen, contre le Kara du Congo, le RC Berkane, club marocain, contre Mbour Petite Côte, c'est évidemment un club sénégalais, l'Africa Sport de Côte d'Ivoire contre le FC Nouadhibou de Mauritanie.
La Ligue africaine des champions reprend également ses droits.
Le tour préliminaire également, samedi la C Léopard de Dolisie contre la S Togo-Port de Lomé, le Rai Club Kadjogo, le club burkinabé contre le CF Mounana, et puis les forces armées nigériennes contre le Oroya de Guinée. Enfin, le club sénégalais de Génération Foot contre Misr Makassa d'Égypte.
Ouverture des JO d'hiver 2018 en Corée du Sud, qu'attendre pour l'Afrique ?
Ce sont les 23e Jeux Olympiques d'hiver ouverts en Corée du Sud avec une belle cérémonie d'ouverture. On rappelle 8 pays africains au total, une participation inédite dans toute l'histoire de ces Jeux. À suivre ce vendredi les épreuves de ski alpin, de curling et de luge.
Et NBA, championnat de basket nord-américain.
Les Celtics de Boston se sont rassurés en s'imposant après prolongation face aux Washington Wizards 110 à 104. Du côté de la conférence Ouest, Golden State s'est relancé en battant la Lanterne Rouge Dallas 121 à 103. De leur côté, les Trail Blazers de Portland ont dû aller jusqu'aux prolongations pour vaincre Charlotte 109 à 103. Le match fut également très disputé à Orlando où les Magic se sont finalement imposés 100 à 98 face à Atlanta. Et puis les Lakers de Los Angeles Je laisse à nouveau battu par Oklahoma 106 à 81. C'est la seconde fois en 5 jours.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre transmagazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide de retour avec vous sur VOA Afrique, émettant de la capitale américaine. À Cap d'emblée sur le Djibouti, avec le coup d'envoi aujourd'hui à la campagne électorale pour les législatives du 23 février, les premières depuis la crise électorale de 2013. Le scrutin qui permettra de renouveler les 65 membres de l'Assemblée nationale du pays comporte un brin de nouveauté et une opposition divisée. Pour en savoir davantage, Raissa Gironda s'est entretenue avec Oumed Daoud, porte-parole de l'Union pour la majorité présidentielle.
L'effet marquant de cette élection, de ces élections législatives de 2018, c'est que les femmes seront représentées à hauteur de 25% au sein de la représentation nationale. Elles passent de 10 à 25%. Et puis aussi, bon, ça a été les recommandations des chefs d'État et de gouvernement du 30e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba du 28 et 29 janvier dernier.
Mais alors que s'engage la campagne pour les législatives, l'opposition absente ou divisée?
L'opposition, elle est perdue. Hein. Comme d'habitude, l'opposition n'a jamais été véritablement crédible auprès des Djiboutiens que nous sommes, dans la mesure où elle n'a jamais eu le minimum de sens de l'organisation. Donc le hasard n'a pas de place quand on cherche à prendre en charge les destinées de tout un pays, de tout un peuple.
Mais pourquoi, selon vous, le MRD, le principal parti d'opposition, ne peut pas participer à cette bataille électorale?
Écoutez, le MRD n'a pas d'existence légale, dans la mesure où ça c'est une affaire de justice aussi. Hein. Bon, donc ce mouvement a été dissous. Et
pourquoi?
Puis les responsables de ce mouvement ont saisi la justice, l'instruction est en cours. Bon, tant que les choses n'ont pas été définitivement bouclées au niveau de la justice, je ne peux pas me permettre de commenter les décisions de justice ou le dossier en cours d'instruction, madame.
Suite à la crise post-électorale en 2013, il y a un accord cadre qui a été signé entre le pouvoir et l'opposition pour avoir une CENI, la Commission électorale nationale indépendante, permanente et paritaire. Ce n'est pas un des points qui est discuté avec ce principal parti d'opposition?
Écoutez, l'existence de la CENI est utile uniquement pour la période électorale. Pourquoi dépenser de l'argent, jeter de l'argent par la fenêtre hors période électorale? Oui, ça coûte de l'argent. Nous n'avons pas d'argent à jeter par la fenêtre. Les Djiboutiens ont d'autres priorités, le gouvernement a d'autres priorités. Dans cette commission, les uns et les autres sont représentés. Et d'ailleurs, il y a des observateurs internationaux qui sont là et validés. Ces élections ont toujours été crédibles. Au lieu dans la transparence absolue, madame.
Pensez-vous qu'il y aura un éventuel engouement de la population face à ces élections législatives?
Écoutez, la population de Djibouti, en règle générale, a moins de 25 ans, essentiellement jeune. Et puis aussi, la politique du gouvernement, la politique tracée par le chef de l'État, accorde une priorité aux femmes et à la jeunesse djiboutienne. Et puis, enthousiasme général, nous dit-on, depuis Djibouti, grâce à cette initiative qui a fait qu'il y aurait 25% de femmes au sein de la représentation nationale.
Oumed Daoud, porte-parole en France de l'Union pour la majorité présidentielle en Europe, il était en ligne de Paris.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les travaux de la seconde édition du Forum africain pour la résilience, organisé par la Banque africaine de développement, la BAD, ont lieu ce vendredi au Centre de commerce international d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le thème cette année, renforcer la résilience des populations au bas de la pyramide. La BAD projette de débourser plus d'un milliard de dollars pour aider 10 000 communautés comptant chacune en moyenne 5 000 personnes. Eric Manirakiza a joint l'un des 250 participants. Il s'agit du directeur du bureau de la coordination des États en transition, Sibri Tapsoba.
Nous avons donné des indicateurs de communautés où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de clinique, il n'y a pas d'école, il n'y a pratiquement pas de route. Des indicateurs qui pourraient définir des environnements où il n'y aurait personne. Avec une technologie géospatiale, nous avons localisé des gens qui vivent dans ces conditions. Donc, en réalité, ces gens-là, comme nous on les appelle, ils sont les oubliés du processus de développement. Et c'est à ces gens-là que nous voulons apporter des buts de solutions de développement, parce que ce sont ces gens les plus vulnérables. C'est au niveau de ces gens que un certain nombre de groupes vont chercher la main-d'œuvre terroriste.
Est-ce que des solutions envisagées à Société des communautés bénéficiaires?
Au niveau de la Banque africaine de développement, on est en train de lancer un grand programme, un vaste programme, 10 000 communautés à 1 000 jours, où nous allons amener l'énergie off-grid, c'est-à-dire solaire ou autre chose, hydroélectrique, et de l'eau. Et pour faire ça, il faut identifier les communautés, donc il faut les associer, il faut former les communautés, il faut les encadrer. Donc, on ne peut pas faire ça pour les communautés, il faut faire ça avec les communautés.
Quels sont les défis auxquels font face les parties prenantes?
Les défis sont changeants, mais sont constants. En même temps, parce qu'on a des défis qui sont liés à la faible capacité des pays qui ont la bonne volonté et qui veulent faire des changements mais qui n'ont pas les capacités nécessaires. Ça c'est un. C'est aussi l'absence de ressources. Mais d'une manière générale, quand on a des idées, on peut avoir des ressources. Et évidemment, il y a des questions de gouvernance qu'il faut aussi souligner. Donc, il y a des défis qui sont structurels qui sont là. Et puis, il y a des défis conjoncturels comme ceux liés à la sécurité qui viennent de se manifester. Des défis qu'on ne connaissait pas il y a 5 ou 6.
La région, comme le Sahel, c'est un casse-tête.
Ah oui, bon, le Sahel, c'est un casse-tête, mais c'est une opportunité. C'est une région où si on arrivait à créer une dynamique où les communautés se sentaient partie prenante, on peut renverser ce qui se passe à l'heure actuelle, mais si on a des gouvernements et des partenaires au développement, y compris des pays amis, qui viennent se battre contre des ennemis dans un pays, c'est difficile. Il faut pouvoir intégrer la population. Et nous, on est confiants que l'implication qui se fait, le travail énorme qui se fait à ce moment-ci avec le G5 Sahel, mais aussi avec l'Alliance pour le Sahel, va porter ses fruits. Parce que ça implique les communautés et il y a réellement une capacité de faire bouger les choses et d'apporter des résultats.
On écoutait Sibri Tapsoba de la Banque africaine de développement, la BAD. Il était joint à Abidjan.
Ce soir, dans l'Amérique et vous, l'esclavage aux États-Unis. Le mois de février est dédié à l'histoire des Noirs, ici aux USA, le Black History Month. L'occasion de revenir sur la traite des Africains en Amérique du Nord. Quelles sont les spécificités de l'esclavage aux États-Unis? Comment se sont-ils retrouvés aux USA? Pour participer en direct, laissez vos commentaires et interrogations sur la page Facebook de VOA Afrique ou réagissez en direct en appelant le 001 202 205 26 33. Morgane Guiriec en votre compagnie. Rendez-vous à 19h temps universel sur VOA Afrique.
Pour la première fois, une délégation de start-up africaines était présente lors de la dernière édition du CES. C'est le grand salon mondial de l'innovation à Las Vegas, aux États-Unis. L'une d'entre elles, Yélène Solar, du Mali, a pu présenter son produit phare, la Solar Box, un générateur composé d'un lampadaire LED et d'un panneau solaire. Notre correspondante à Bamako, Founé Diarra, est partie à Ngolobougou pour en savoir davantage. Le ici est signé Raissa Gironda.
C'est à Ngolobougou, à quelques kilomètres de Bamako, qu'Abdoulaye Gakou a installé le prototype de sa Solar Box, un dispositif mobile 2 en 1 qui fonctionne à l'énergie solaire et permet d'avoir une source d'énergie adaptée aux différents appareils du quotidien comme un téléviseur, un téléphone portable ou encore une radio.
L'avantage que nous avons avec la Solar Box, c'est que son autonomie est modulable. Nous nous adaptons aux besoins de la localité. Ce qui veut dire que nous faisons ce qu'on appelle un dimensionnement qui nous permet de déterminer le nombre de panneaux solaires et leur puissance, le nombre de batteries et leur capacité. Nous avons une autonomie aujourd'hui qui va de 6 à 24 heures.
Sa fabrication, explique l'ingénieur, est à la fois écologique et économique, sans oublier l'aspect pratique pour les travailleurs de la terre.
Pour s'installer en brousse, sans éclairage, ce n'est pas évident. L'intérêt d'avoir un appareil comme la Solarbox est crucial. Plusieurs tâches peuvent être accomplies une fois la nuit tombée, et ce, facilement. Le générateur est grand, donc il peut éclairer plusieurs endroits.
Au Mali, seuls 15% des zones rurales sont électrifiées. La Solarbox entend bien combler ce déficit.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Ici même, aux États-Unis, après un shutdown de plus de 8 heures, le Congrès est arrivé à un accord budgétaire, même si certains démocrates et républicains demeurent frustrés par les compromis consentis. Ce texte, ratifié par le président Donald Trump, prolonge jusqu'au 23 mars le financement de l'administration fédérale, en attendant que les élus transforment cet accord budgétaire ponctuel en proposition de loi pérenne. Yacouba Ouédraogo a joint le professeur Richard Conley, enseignant de sciences politiques à l'Université de Floride.
C'est un projet de loi qui prolonge pour quelques semaines le budget américain parce que du point de vue constitutionnel, on ne peut pas continuer à gouverner sans l'argent nécessaire. Donc c'est ça le problème. Et on n'est pas d'accord sur un grand plan, soit que annuel ou 6 mois ou 3 mois. Et maintenant, le problème, c'est que cette situation d'immigrants illégaux est là-dedans. Et les démocrates veulent un accord sur ce sujet. C'est difficile de résoudre.
Est-ce que les démocrates ont pu obtenir justement une entente avec les républicains sur la situation des migrants arrivés jeunes aux États-Unis, les Dreamers?
La date limite imposée par le président, c'est le 5 mars, je pense.
Tout à fait, c'est le 5 mars.
On a moins d'un mois de résoudre ce problème. Il est possible que le président prolonge cette date limite, mais vraiment, du point de vue objectif, la situation des immigrants n'est pas connectée au budget.
Qu'est-ce que les républicains gagnent dans l'accord qui a été obtenu avec les démocrates?
Pour la part des républicains, le selling point, le point de vente, là, c'est le militaire. Parce que le problème pour le militaire, c'est qu'on a des engagements à l'étranger et on n'a pas de budget. Il est très difficile de prévoir. Maintenant, on a un budget qui protège le militaire. C'est peut-être le plus grand gain pour les républicains, mais autrement, le problème, ça reste toujours le déficit budgétaire et la dette qui monte. 21 milliards de dettes, ça c'est très difficile pour les conservateurs d'accepter.
C'était une promesse de campagne pour Donald Trump d'augmenter le budget des militaires.
Oui, bien sûr. Pour lui, c'est peut-être un gain. Mais le problème toujours, c'est qu'on dépense beaucoup plus d'argent qu'on a dans les coffres du gouvernement.
Et qu'est-ce que les démocrates, eux, gagnent dans cet accord qui a été trouvé avec les républicains?
Je pense que les démocrates croient que peut-être cette bonne volonté d'avoir un budget maintenant peut persuader le président et les républicains d'arriver à un compromis pour les immigrants illégaux, les enfants, etc. C'est risqué. Hein.
Les démocrates disent avoir obtenu une hausse des dépenses non militaires, notamment la lutte contre la drogue et autres.
Les dépenses pour la crise des drogues, c'est 6 milliards de dollars. Donc c'est pas très grand vis-à-vis le militaire.
Les républicains ne sont pas tout à fait satisfaits, les démocrates aussi ne sont pas tout à fait satisfaits. À quoi les uns et les autres s'attendaient?
Le problème maintenant, nous avons des élections en novembre, donc il reste à voir comment les républicains et les démocrates au Congrès peuvent vendre ce marché aux électeurs.
Voilà, le politologue Richard Conley était en ligne de Floride. ben c'est vendredi, pourquoi pas terminer en beauté, en musique, avec la très belle voix de Lissi Naïs, Je veux rester. Et voilà, point final à ce numéro du Monde aujourd'hui. Lionel Gaïma a assuré la mise en onde. C'était Sidrak Franklin à la technique. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end sur VOA Afrique. Take care.